Donc voilà les paroles de Guéranda. Il y a quelques jours, nous avons célébré la fête du saint martyr Emilianos, cet homme admirable qui a eu le courage de s'en prendre aux démons et aux statues en bois, lesquelles, alors, étaient honorées et on leur rendait un culte comme des vrais dieux. C'était des idoles. Aujourd'hui, quelques jours après cette fête, nous honorons un autre saint Emilianos, le confesseur celui-là, qui était évêque de Cizik. Cizik, ça se trouve en Turquie maintenant. Cet admirable pasteur qui aimait tant ses enfants et voulait les préserver de chaque danger spirituel. Sa vie fut réellement une vie de martyr. À cette occasion, vous avez fêté pour la deuxième fois votre père spirituel, moi, c'est-à-dire Emilianos, hein, et vos cœurs lui ont chanté ce matin, on pourrait dire spontanément, le chant « Nombreuses années » auquel je faisais référence en introduction. Ce n'était pas possible que votre attitude ne me touche pas, comme votre attitude à vous aujourd'hui me touche de souhaiter cette fête de Saint-Élie. Parce que je sais votre amour, je connais votre cœur, je sais que chacun de vos regards, mais aussi à chaque instant de votre vie, il y a devant vous le Guéranda. C'était naturel que je sois rempli de reconnaissance à votre égard. C'est pour cela que j'ai pensé à cette réunion de ce matin, de manière à ce que cette pauvre collation soit l'expression d'un festin, du festin que Dieu nous met chaque jour devant nous, en raison justement de cet amour qui nous unit. Je pense que le chant « Nombreuses années » est un jaillissement de vos cœurs et ne signifie pas tellement votre désir pour une vie de beaucoup d'années, mais qu'il me montre plutôt tous vos désirs qui tournent chaque jour dans votre cœur et se tournent en fait vers le ciel. Tous ces désirs dans un monastère font corps avec la personne du Guéranda. Il est vrai, le Guéranda est compris et vu comme la chose la plus belle, non pas parce qu'il est beau, parce qu'il est tel, parce qu'il est un tel, ou parce qu'il serait digne, mais parce que sa place, sa mission et sa fonction spirituelle sont quelque chose d'autre que ce qu'il paraît être au premier abord. Le Guéranda est un père. Il n'est pas un homme ordinaire. Pourtant, le Seigneur a dit clairement, dans l'Évangile, qu'il n'est pas permis d'appeler Père quelqu'un sur la terre, parce que nous n'avons qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Comment donc est-il possible que dans un monastère, chaque jour, nous considérions et appelons Père et Igoumène, Igoumène ça veut dire abbé, supérieur si vous voulez, hein, un homme. Est-il possible que nous soyons dans une telle opposition manifeste avec le commandement de l'Évangile? N'est-ce pas une opposition à la parole du Christ? Non, tout simplement, c'est la confirmation de la parole de Dieu. Puisque dans la personne du Guéranda, nous voyons Dieu lui-même. En tout cas, comme signe visible de Dieu, le Guéranda est établi comme le centre de la vie de la communauté, de la fraternité. Il est établi, si vous voulez, comme le centre d'une vie qui résulte de la vie de tous ceux qui constituent le monastère. C'est le centre d'une activité intense, le centre de nombreuses et beaucoup de combats et de cris qui jaillissent chaque jour de chaque porte, de chaque fenêtre, de chaque chambre, de chaque cellule et montent très haut vers Dieu. Le moine se réjouit-il? Il se réjouit parce que Guéranda lui a souri. Le moine se réjouit-il à nouveau? Il se réjouit parce que c'est pour cela que son Guéranda est joyeux. Le moine vient-il voir le Guéranda? Le Guéranda se réjouit parce qu'il sent une assurance auprès de lui. Le Guéranda parle-t-il? Toutes les forces du moine se réveillent parce que c'est Guéranda. Le Guéranda garde-t-il le silence? Le moine se réjouit encore, comme lorsqu'il parlait. Le Guéranda se met-il en colère? Le moine se réjouit encore, parce que quand le Guéranda lui fait des éloges, le moine se réjouit aussi quand le Guéranda resplendit et quand il sourit. Le résultat est toujours le même, c'est la venue de la joie dans son cœur. Bien sûr, le moine se réjouit bien davantage parce qu'il voit sensiblement son père, son Guéranda. C'est pour cela aussi qu'il rend particulièrement grâce à Dieu. C'est pour cela qu'il sonne les cloches, c'est pour cela qu'il pousse des cris, c'est pour cela qu'il chante. Le moine sait qu'il sera possible qu'un jour, il ne verra peut-être plus son Guéranda, parce que la mort aura fait son œuvre. Mais le fait qu'il le voit encore lui rappelle la longanimité et la miséricorde, la richesse et l'amour de Dieu lui-même. Rien sur la terre, ni les étoiles, ni même, dirions-nous, le paradis, ne pourrait lui donner autant de joie que celle que lui donne le Guéranda. Parce que toutes les choses, il les a entremêlées, il les a unies dans sa personne, c'est-à-dire avec son empreinte, avec son icône, puisqu'il le voit comme l'icône, comme l'image du Christ. Il reste dans sa cellule parce qu'il sent sa présence. Et s'il ne l'avait pas senti, sa vie serait véritablement un martyr. Dans sa joie, immédiatement, il appelle son Guéranda. Dans son affliction, il a là aussi, à côté de lui, même invisiblement, son Guéranda. Dans chacune de ses délices, dans chacune de ses douleurs et dans chacun de ses désirs, il voit à nouveau le Guéranda de manière tellement sensible comme rien d'autre. Mais aussi, dans son rêve, il voit à nouveau le Guéranda, tantôt rude, tantôt doux. Je me souviens d'une personne qui m'avait raconté son rêve. Puisqu'il était oisif au monastère et qu'il ne s'occupait de babioles, de petites affaires, de petites choses, de ces affaires tellement mensongères et vaines, soudain, la nuit, il s'est senti effrayé parce qu'il voyait le Guéranda qui semblait lui dire comme un tonnerre « Ben, je vais te casser la gueule. » Alors il lui a dit « Je ne recommencerai pas, je ne referai pas. » Et il s'est levé à ce moment-là. Ce fut pour lui le commencement d'une nouvelle vie, sans petites affaires, sans petites distractions, mais profondes. Un autre qui était affligé, blessé, fatigué par ses chutes, par ses afflictions dans sa santé, qu'il pensait changer complètement sa vie, quand dans son sommeil, il lui a semblé que quelque chose est entré comme un éclair, ensuite comme une personne, un éclair d'abord, puis une personne physique ensuite. Ensuite, il lui a semblé que c'était son Guéranda qui lui disait d'un ton contrarié « Mais pourquoi tu agis ainsi, mon enfant ? Ne t'ai-je pas dit que Dieu était si proche de toi ? Voilà, s'il te touche le visage, immédiatement tout changera pour toi. Si Dieu te touche, tout changera. » Et le matin, là où il lui semblait que Dieu l'avait touché, son visage était rouge et chaud, et que tout était changé. Une fois, un père est allé chercher son enfant dans un monastère, là où il lui semblait qu'on l'avait emmené de force. En voyant l'igoumène, petite parenthèse, il y a un nouveau film qui vient de paraître, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle « L'homme de Dieu ». C'est la ville Saint-Nectaire-des-Chines. Et dans ce film, on voit effectivement une mère de famille qui va chercher sa fille qui était librement entrée dans le monastère de Saint-Nectaire et qui croyait que Saint-Nectaire l'avait kidnappée pour des raisons peu avouables. C'est des choses qui arrivent. Voilà un cas comme ça ici. Un père est allé chez son enfant dans un monastère là où il semblait qu'on l'avait emmené de force. En voyant l'igoumène dans l'église, il a dit au moine qui était avec lui, « Voilà, c'est lui qui est venu dans ma maison et pendant 3 jours a parlé à mon enfant pendant la nuit, l'a enjôlé et l'a emmené au monastère. Je l'ai reconnu immédiatement à la voix. » Le Guéranda a eu beau lui dire qu'il n'était jamais allé dans son village, lui ne l'a pas cru et lui a répondu, « C'est exclu. Tu es venu en esprit, je t'ai senti, je t'ai entendu. » J'avais mis tous les moyens en œuvre pour te prendre, mais je n'ai pas pu, parce que je ne pouvais pas comprendre par où tu partais et qui tu étais. Pour montrer que le Père spirituel vient chercher en, spirituellement son enfant que Dieu lui a donné. Chaque chose au monastère a un lien avec cet homme, c'est-à-dire avec le Guéranda, parce qu'il n'est pas seulement un homme. Au sujet du Christ, on disait « Voici l'homme, quand il est descendu sur la terre, le Fils de Dieu, parce qu'il était visible comme fils d'homme. » Nous, nous ressentons le Guéranda comme Dieu, au contraire, parce qu'il est un homme, parce que nous savons que c'est pour lui que prévaut maintenant ces vraies paroles prophétiques. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Nous pourrions dire, de manière un peu imagée, que derrière le Guéranda, dont vous ne voyez pas la véritable personnalité, mais simplement son aspect physique, car en réalité, il n'est rien en tant que tel par lui-même, mais on peut dire que Dieu se cache lui-même derrière la personne du Guéranda. Le Guéranda devient de la poussière, devient cendre. Il deviendrait un masque que l'on mettrait en lambeaux si derrière lui, ce n'était pas effectivement le Christ qui s'est tenu. C'est-à-dire que si le Christ n'est pas derrière le Guéranda en fait n'est rien. Mais comment est-il possible que celui qui est tellement vivant, tangible, qui est une personne connue, une telle chose palpable, soit pour le moine quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible? Oui, c'est possible. Parce que dans notre Église, il n'existe rien de vrai à part le mystère. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est tous ceux qui pêchent. C'est toutes ces malversations. C'est toutes les règles, toutes les manières d'organiser, tous les organismes spirituels qui sont advenus, tous les règlements qui ont été écrits ou qui ont échoué. L'Église, c'est toutes ces choses que nous voyons chaque jour devant nous, les lustres, les cierges, les encensoirs, l'évêque, les prêtres, les diacres. Mais en réalité, l'Église, c'est rien de tout cela. L'Église, c'est quelque chose d'absolument mystérieux. L'Église, c'est le Christ lui-même. L'Église, c'est seulement le Christ. C'est pour cela que les portes de l'enfer ne seront pas plus fortes qu'elle. Le reste, c'est la lumière avec ses taches, lesquelles se perdent au sein de la lumière absolue, dans la lumière des vêtements du Seigneur. Qu'est-ce que la vie? Quelle est notre nourriture à nous les moines, ou à nous les chrétiens, mais aussi à tous les fidèles? C'est quoi notre nourriture? Notre nourriture, ce sont les sacrements. Et qu'est-ce que sont... Que sont les sacrements, ou mystères, c'est le même mot? C'est ce qui se cache sous les éléments visibles. Vous avez des éléments visibles, comme je vous expliquais après la liturgie, après l'évangile, mais derrière ça, il y a une autre réalité, qui est l'endroit des choses, et qui, elle, est invisible, mais pourtant réelle. Quelle est cette unité? Qu'est-ce qui se cache sous ces éléments visibles? Quelle est l'unité de tous les fidèles? Comment nous, qui sommes des milliers et des myriades de personnes, qui quelquefois nous dévorons et nous offensons les uns les autres, au point que nous ne pouvons jamais réunir deux d'entre eux qui aient la même opinion, comment est-il possible que nous soyons véritablement quand même un seul corps? Nous sommes un corps. Parce que ce n'est pas nous qui créons ce corps, c'est pas nous qui formons ce corps. Mais c'est la chair qui a été assumée par le Seigneur qui forme ce corps, que nous ne voyons peut-être pas, mais que nous pouvons simplement le comprendre à travers le corps dans l'existence de notre assemblée. De manière semblable, mes enfants, quel est notre amour mutuel? L'amour des enfants pour leur père, des moines pour leur Guéranda, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la communion? Et quel est le lien le plus fort qui unit les enfants avec leur père, si ce n'est pas cet élément que j'appelais tout à l'heure de mystérieux? Notre amour, c'est le Christ que nous désirons. Si un moine ou un chrétien ne désire pas le Christ, s'il n'est pas consumé par ce désir, est-il possible qu'il aime un jour même son Guéranda? Quoi que nous fassions d'humain, si jour et nuit nous passons tout notre temps ensemble, si toute la journée nous discutons et plaisantons, si toute la journée et la nuit je vous conseille, je vous incite, je vous réprimande, je vous transmets une parole de Dieu, si jour et nuit nous nous regardons dans les yeux, est-il possible que nous sentions réellement la communion? Si nous ne sentons pas ce lien avec le Seigneur lui-même, s'il n'existe pas de cohésion et d'engagement, d'identité et de communion avec le Christ, si nous ne sommes pas unis dans l'Église, le bâtiment, pendant les offices, ou dans notre cellule, pendant la nuit, ou lors de notre travail, partout, si nous ne sommes pas avec le Seigneur, est-il possible qu'en s'approchant de notre Guéranda, que nous sentions avec lui une communion et amour? Ce ne serait pas possible. Est-il possible que nous sentions à quel point lui et nous, nous ne faisons véritablement qu'un? Ce lien du Christ, le lien de nos désirs et de nos intentions, le lien de nos cœurs et de nos combats, de nos luttes et de nos cris mystiques, c'est-à-dire spirituels, avec le Christ, ou mieux, le Christ lui-même, lequel, par nos douleurs de l'enfantement, se forme en nous, c'est-à-dire avec notre peine, le corps du Christ se forme en nous. Comment ceci montre notre amour et notre communion? C'est pour cela que nous pouvons chanter au Guéranda le chant « Nombreuses années » qui convient aux empereurs et aux métropolites, c'est-à-dire aux archevêques, parce que ces derniers, pour la même raison, sont vus comme icônes, comme images, comme reflets du Christ, l'un comme le premier en dehors de l'Église pour l'empereur, et le deuxième pour l'évêque comme le premier à l'intérieur de l'Église. C'est pour cela que nous pouvons lui chanter des hymnes qui conviennent seulement à la très sainte Mère de Dieu et pour l'Église, parce que dans sa personne, nous récapitulons, nous unifions ce qu'il y a dans notre cœur. Comme le berger qui tire et qui fait sortir avec son bâton la brebis qui est tombée dans la fosse, ainsi le Guéranda nous tire avec son bâton, avec sa houlette, et tantôt nous conduit à l'Église, tantôt nous conduit dans la cellule, tantôt nous conduit au travail, tantôt ici et tantôt là, là où il y a toujours le Christ. Dites-moi, s'il n'y avait pas votre cellule, pourriez-vous aimer votre Guéranda? Resteriez-vous au monastère s'il n'y avait pas l'assemblée de l'Église, si votre Guéranda n'était pas là, s'il n'y avait pas des diaconies, des diaconimata, on appelle ça dans notre vocabulaire, des obédiences, des services, des travaux qui unissent les membres d'un même corps, pourrait-il y avoir un Guéranda, un père? Mais non, ce ne serait pas possible. L'Église, qu'est-ce que c'est que l'Église? Dieu tout entier se trouve dans l'Église. Nous nous y rendons, comme ce matin, nous nous y rendons parce que nous savons que le Guéranda, ou son représentant, organisera tout, mettra tout en ordre. Les hommes à leur place, les diacres à leur place, les servants à leur service, les prêtres suivant l'ordre qui leur convient, ou les anges qui rentreront, ou d'où ils sorteront, là où les saints s'assiéront, et là où Dieu lui-même arrivera pour se manifester concrètement, ce que nous avons vu pendant les processions que nous appelons la grande entrée. N'est-ce pas cela en réalité notre assemblée liturgique, notre assemblée mystique? L'Église n'est-elle pas véritablement notre royaume? L'Église n'est-elle pas le lieu de nos rêves? Le lieu où nous plaçons premièrement le Guéranda sur un trône? Quand nous le voyons, est-ce que nous ne le voulons pas pour mieux chanter et pour mieux prier? Ne pourrions-nous pas dire que si quelqu'un meurt à l'Église à l'heure de l'assemblée liturgique, il ne différerait pas de ceux qui ont été transférés au ciel alors qu'ils étaient encore vivants, comme celui que nous fêtons aujourd'hui, le prophète Élie, notre assemblée, notre synaxe, notre assemblée liturgique à l'église, n'est-elle pas véritablement le ciel dans toute sa majesté? Qu'est-ce encore que notre diaconima, notre obédience, notre service, notre diaconie? N'est-ce pas un travail créateur? Un service d'une main vers l'autre, d'un doigt vers l'autre? N'est-ce pas une marche commune, le regard d'un œil avec un autre? N'est-ce pas la marche commune d'un pied avec l'autre? Par conséquent, notre service n'est-elle pas une autre forme de l'assemblée liturgique que nous faisons avec amour, un sacrifice, ou avec notre veille, notre agrypnie? Agrypnie, c'est la veille, la prière nocturne. Notre diaconie, notre service. Mais c'est le Christ lui-même. Notre travail fait que nous sommes unis avec le Guéranda, parce que quand nous travaillons de manière constructive et efficacement dans la personne du Seigneur, alors nous avons immédiatement la tendance d'aller vers le Guéranda pour écouter ses félicitations, son bravo. Et ce bravo est pour nous plus précieux que d'innombrables trésors. C'est une reconnaissance de sa part. Alors que si nous vivons comme des cadavres, comme des êtres non créatifs, qui ne participent pas et ne communiquent pas aux besoins des frères, nous n'avons alors aucun courage et aucune disposition pour aller vers notre Guéranda. Qu'est-ce encore que l'amour mutuel? Notre patience envers l'autre, notre préférence à chaque instant de la volonté, du désir ou de l'opinion de l'autre, car cela est le nœud de notre vie de charité, comme le Christ et Saint Paul nous l'a annoncé, toujours préférer la volonté de l'autre que sa volonté personnelle, individuelle. Qu'est-ce que le combat que nous faisons pour reconnaître à l'autre des droits sur nous-mêmes? La joie des autres, n'est-ce pas cela même qui fait que nous nous sentons à l'aise et bien? Peu importe que je sois heureux ou malheureux, ce qui importe, c'est que l'autre soit heureux. N'est-ce pas cette joie avec les autres qui nous donne l'assurance de nous présenter véritablement devant le Seigneur? En réalité, le monastère, une assemblée chrétienne, c'est la participation de tous les membres de cette assemblée à la vie et à la joie commune. En réalité, un monastère ou une assemblée, c'est la participation de tous les moines à la vie et à la joie commune. Chaque moine est pour chacun d'entre nous une personne qui a sa propre grâce, sa propre beauté, sa propre pulsation, son propre rythme devant Dieu, mais en accord, en même temps, en accord avec les rythmes, le rythme de toute la communauté. Il a chacun ses propres cris, ses propres douleurs, ses propres joies. Chaque moine, chaque chrétien est pour nous un saint qui a sa propre ascèse. Il est un ange. Chacun est un ange qui se tient devant le Seigneur. Il est une personne qui n'est rien d'autre que l'image, le reflet, une icône de Dieu. Et quand nous le voyons chuter, quand nous le voyons tomber, quand nous le voyons pécher, nous le sentons dressé sur ses pieds, au contraire. Et quand nous le voyons pécher, nous savons qu'il ne cesse pas d'être membre du corps du Christ. Cette joie, cette participation à la joie de la fraternité, à la joie des autres frères, nous donne le droit de sentir le Guéranda comme le nôtre. Cependant, nous jugeons les frères quand nous les critiquons, quand nous les massacrons avec notre tête ou avec notre jugement, avec notre bouche, avec nos exigences, avec l'isolement que nous créons entre eux et nous. Alors, si nous faisons ça, nous sentons que la solitude glaciale envahit notre cœur. Cependant, dès que nous manifestons de l'amour pour un frère, dès que nous désirons sa présence, dès que nous l'aidons, dès que nous nous sacrifions pour lui, nous allons, pour ainsi dire, vers le Guéranda avec une multitude de sourires pour lui communiquer ce que nous vivons. Mais il y a aussi notre cellule, notre chambre privée. Qu'est-ce que c'est que notre chambre haute? Qu'est-ce que c'est que notre cellule à chacun de nous? C'est le lieu de la présence continuelle du Guéranda, parce que là, le Christ dans la cellule règne en maître. La cellule n'est pas... cellule, ça veut dire la chambre d'un moine. La cellule n'est pas seulement un lieu de repos. Évidemment, on s'y repose quand on va dans sa cellule. Mais par-dessus tout, la cellule, c'est une piste. C'est un stade. C'est une arène. Le moine va dans sa cellule plein de hâte, pressé, dès qu'il sort de l'église, parce qu'il a fini son service, il a fini son diaconimat, dès qu'il a fini sa rencontre avec Guéranda. Il court, parce qu'il sait que là, il se tient invisiblement présent, le Seigneur, et le Seigneur est invisiblement présent avec lui. La cellule le presse d'y retourner en courant, ou qu'il soit allé préalablement. La cellule est le lieu permanent du repos spirituel du moine, parce qu'il est le siège du Christ lui-même. La cellule d'un moine, c'est le trône de gloire du Christ. La cellule, on peut dire aussi que c'est le poste de garde du moine, le mirador. De même que chaque soldat est assis à son poste, ainsi le poste, le mirador du moine, c'est sa cellule. S'il n'est possible qu'une personne quitte son pays, que la plante quitte la terre ou la fleur son pot, les astres, le ciel, le sol, la terre, les anges autour du trône de Dieu, alors il n'est pas davantage possible que le moine manque à son poste de cellule, à sa cellule. Sa cellule, c'est sa vigie, son poste d'observation dans lequel il suit le cheminement, l'aller et retour, les allées et venues du Christ. Et il peut l'appeler s'il veut et rester avec lui. Et en même temps, il peut suivre les mouvements du démon, les passions, les mers sauvages, les dangers qui le menacent, et ainsi mettre le Christ à contribution pour chasser tous ces obstacles. La cellule, mes enfants, n'est-elle pas à chaque instant notre Église? N'est-elle pas le sanctuaire? N'est-elle pas ce lieu même où Moïse fut contraint de déposer ses chaussures au mont Sinaï pour se tenir debout et écouter la voix de Dieu, celle qui sortait de la flamme du buisson qui ne se consumait pas? Sentez-vous que la cellule puisse être quelque chose de moindre, quelque chose de moins grand que ce buisson ardent? Il me semble que ce soit impossible. En effet, la cellule, c'est une lumière extraordinaire. C'est le lieu de la lumière. La cellule, c'est la source de la lumière, de laquelle le moine puise la lumière, parce que là, nuit et jour, il gagne son Dieu. Il l'a rempli avec Dieu qui est lumière. Puisqu'il est lumière, la cellule du moine aussi est lumière. La cellule du moine est aussi un feu que le moine allume dans ses entrailles. Un feu, dit le Christ, je suis venu le jeter sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, dit le Seigneur dans l'Évangile. Et il ne le laisse pas se reposer. Quand cependant, le Christ allume-t-il ce feu dans les entrailles du moine? Si ce n'est dans ses recherches de Dieu, jour et nuit. Réellement, la cellule est un lieu où, comme moine, je m'agenouille devant celui qui sonde les cœurs et les reins, devant celui qui sait que je sais qu'il voit mon cœur, qui le désire, et qui par conséquent peut me donner, selon mon désir, selon mon cœur et selon ma peine. Lui est le seul qui peut me donner. Rien d'autre ne peut apporter quelque chose au moine, lequel s'est séparé de tous et de tout, finalement. la cellule est le lieu où j'invite Dieu pour qu'il se sente là au repos complet, là où je m'efforce que toute chose soit le trône de la présence de Dieu, où Dieu puisse se reposer. Celui de notre trône, dont le trône sont les chérubins, dont les pieds reposent sur les abîmes, de même qu'il a daigné s'envelopper avec des langes au moment de sa naissance sur terre. Ainsi, il daigne se cindre, se rétrécir avec ma cellule. Et cette cellule devient quelque chose de supérieur même aux chérubins. D'autant supérieur que le Christ s'est donné, s'est sacrifié et est mort pour l'homme plutôt que pour les anges pour lesquels il n'est pas mort. Ma cellule, c'est le trône de celui-là, et par conséquent, c'est ma propre chair, le siège sur lequel le Christ m'a mis lui-même. Un moine peut-il vivre sans sa cellule? Un moine peut-il vivre si sa vie n'est pas dans sa cellule? Un moine peut-il vivre s'il trouve son repos n'importe où ailleurs et ne trouve pas son repos dans sa cellule? Parce que dans la cellule, nous le savons, c'est le Christ qui est présent. Mes enfants, dites-moi, est-il possible que la cellule ne soit pas le lieu de notre Dieu? Est-il possible que le Christ ne soit pas là? Et si le Christ est là, est-il possible que le moine ne le vive pas nuit et jour avec ses veilles, ses agripes intenses de son esprit et la station debout de son cœur? Notre cellule n'est pas une veille de 6 heures ou de 8 heures ou de 15 heures ou de 18 heures à l'église, mais une agripnie qui ne se finit jamais. De même que le prêtre entre dans le sanctuaire et dispose toutes choses afin que descendent les anges et le Christ, et ensuite il se tient debout avec un cœur humble, mais aussi avec fierté, avec une pleine connaissance d'esprit, et il parle au Père, et il demande, il exige par le Père, par l'Esprit Saint, d'unir le Christ avec ses dons, le pain et le vin, et de les faire devenir corps du Christ, de christifier toutes choses, de les déifier, de les faire devenir divines, ainsi exactement l'autel, l'église du moine, c'est sa cellule. Chaque moine dans un monastère est un roi. Chaque moine est un prêtre. Chaque moine est un célébrant, un grand prêtre dans sa cellule, un seigneur en fait. Toutes les choses, il les règle, il les réfléchit, il les vit de telle sorte qu'il puisse en faire don au Christ. À l'inverse, sa cellule ne lui dit rien s'il n'y trouve pas le Christ. Et sans aucun doute, l'expérience du dernier moine, du plus loupé qui ait jamais existé, c'est celle-là. Dès qu'il a recherché le Christ, qu'il a un peu transpiré, comme le Christ qui transpirait au jardin de Gethsémani, dès qu'il a un peu lutté et combattu, dès qu'il a un peu oublié son moi, son ego, dès qu'il a un peu oublié ce qu'il cherche, lui aussitôt, immédiatement, le Christ se présente et il change toute chose. Il transforme aussi ce moine en un prêtre mystique, en un roi, en celui qui, en lui, récapitule, réunit, unifie tout l'univers. Le prêtre est un officiant à l'église. Le moine est aussi un officiant dans sa cellule. Par conséquent, la cour du Seigneur dans laquelle le moine est jeté à la dernière place, c'est toute sa petite cellule. Elle est en totalité la cour du Seigneur, en totalité l'église. La cellule est réellement le lieu où le moine s'en remet aussi à son Guéranda. Bien sûr, à chaque moment, où que le moine soit, ou quoi qu'il fasse, il se peut qu'il se trouve face à ce qui en lui, son ego, comme une pensée, comme une opinion, comme une idée, comme une perspective, comme si c'était un bruit sourd, comme n'importe quoi d'autre, si vous voulez. Pour qu'une personne se livre, il faut que des milliers d'autres le lient pieds et poings. Dans la cellule du moine, personne d'autre ne peut le faire à part le moine lui-même. En gagnant le Christ, il s'en remet au Guéranda et dit « Mais Guéranda, je t'appartiens, je suis tien, tu m'as vaincu. » Parce que chaque difficulté est une difficulté avec le Guéranda. Chaque problème devient un problème avec le Guéranda. Chacun de ses échecs est une chute du Guéranda lui-même. De même que chacune de ses joies devient une joie avec le Guéranda, c'est comme s'il luttait continuellement avec le Guéranda. C'est pour cette raison-là que plus il aime le Guéranda, plus il le réjouit, et plus aussi il le craint, plus il s'en prend à lui et le sent véritablement comme une difficulté, comme un ennemi, comme un bourreau, comme un éclair, comme un tonnerre, comme nous le disions précédemment, mais aussi comme un embrassement, comme un père, comme un cœur qui bat pour lui. Aucun moine ne sent que ce Guéranda est le père des autres, mais que c'est son père à lui, personnellement. Et cela, il le sent quand ? Dans sa cellule, dès qu'il a vécu avec le Christ. Alors il dit, « Mon Guéranda, je m'en remets à toi. » En réalité, c'est au Christ qu'il s'en est remis. Mais comme s'il dévoilait son amour au Guéranda et que le Christ saisissait son amour, il sait que c'est ainsi que finalement il conquiert Dieu. La cellule est donc le lieu où la personne s'unit avec le Guéranda. Et quand il le rencontre, il lui semble qu'il ne le voit pas maintenant simplement, mais qu'il l'a vu continuellement et qu'il ne l'avait jamais perdu. La cellule, c'est encore le lieu où nous confions notre vie au Christ. Parce que le moine est comme s'il vivait sur le tranchant d'un rasoir. Et c'est uniquement quand il s'est appuyé fortement sur le Seigneur qu'il lui a fait confiance et qu'il n'a pas peur de ce rasoir tellement fin sur lequel sa vie est secouée, qu'alors il peut dire « Le ciel est à moi ». Le moine vit entre la foi et le manque de foi, entre la vision et l'aveuglement, entre la douleur et l'enlèvement par le Christ, entre la maladie et la santé, entre la pauvreté et la richesse. Cependant, Dieu devient tout pour lui quand il cesse de voir son manque de foi, quand il cesse de voir sa chute et sa droiture, et qu'il dit « Je crois, Seigneur, secours mon manque de foi ». Par conséquent, la cellule est le lieu où nous nous remettons au Guéranda, où nous nous confions au Christ, le lieu où nous peinons, où nous transpirons, où nous haletons, dirions-nous, où nos genoux deviennent calleux, où nos cœurs souffrent par ce grand combat. Mais grâce à la peine, nous obtenons l'abondance et la confiance au Guéranda. Le Guéranda, en attirant nos cœurs et nos yeux, nos désirs, nos douleurs et nos joies, en attirant tout, devient le signe qui nous rassemble et nous devenons un avec lui. Nous devenons la sainte assemblée liturgique. Nous devenons la Sainte Église, l'allégresse des anges, la plus douce vision de Dieu lui-même. Quand le psalmiste a dit « Voyez qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter en frère tous ensemble », il l'a dit comme une vision prophétique de l'Église et des saintes îles de l'Église, des saintes synaxes, des saintes réunions de l'Église, des saintes demeures du corps du Christ. Mes enfants, ce que nous faisons, nous, c'est la réalisation des promesses de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Souvenez-vous, par exemple, de cette prophétie du prophète Isaïe, lequel s'est trouvé dans la terrible place de prédire toutes les souffrances du Christ et de manière dramatique. Son cœur pleurait, comme ont aussi pleuré tous les prophètes. Quand Dieu a placé devant Dieu en vision les épreuves d'Israël, lesquelles ont préfiguré la passion de Christ. Le prophète Isaïe, à l'heure où il a dit que Dieu deviendra comme une bête morte et sera mise au tombeau, c'est précisément à cette heure-là qu'il a aussi annoncé la postérité qui jaillira du tombeau froid du Christ par la résurrection. Et sa génération, qui la racontera, dit encore Isaïe. Quelle chose étonnante! Qui peut comprendre? Qui peut raconter? Qui peut décrire? Qui peut imaginer et expliquer le fait que le tombeau du Christ, avec sa résurrection, sa génération jaillira? Quelle est cette génération? C'est tellement prodigieux, c'est tellement mystérieux ce qui s'accomplit, à savoir que la vie sorte du tombeau du Christ mort, ou de notre propre profession monastique, de notre propre enterrement. Telle est la race de ceux qui cherchent le Seigneur, dit pourtant le psalmiste. Cette génération, c'est quelque chose de mystérieux et d'inaccessible à l'intelligence et au cœur humain. C'est inabordable aux yeux des hommes. Il est impossible que l'intellect, le nous, l'intelligence de l'homme puisse le comprendre, que nous accomplissons cette génération ici et en ce moment même à chaque jour, soit mystiquement, en nous recueillant étroitement dans notre cellule, soit en nous retrouvant ensemble dans l'église comme nous l'avons fait ce matin, soit en nous précipitant pour un entretien vers l'appartement du Guéronda, de l'Igoumène ou ailleurs encore. Le prophète Isaïe dit encore que le prophète Isaïe dit que le Seigneur, lui, qu'ils enterreront ses enfants sans femme, sans qu'il ait porté de fruits dans son sein, il y a une erreur ici, lui, il héritera de beaucoup. Lui, le Seigneur, n'héritera pas de beaucoup de choses, c'est-à-dire de biens, de champs, de semences, de campagnes, de biens immobiliers et mobiliers. Mais il héritera de beaucoup parce qu'il héritera des hommes. Quel honneur que nous soyons héritiers du Christ, à savoir que nous héritions de sa mort avec tous les martyrs quotidiens, tous les renoncements quotidiens de notre vie, avec notre participation à sa mort et à sa résurrection, avec ces changements spirituels quotidiens que nous éprouvons en Christ. Qu'est-ce qui pourrait être le meilleur et plus honorable que cela? Lui, dit Isaïe, héritera de beaucoup. Mais voilà, nous qui sommes les héritiers du Christ, c'est pour nous qu'a parlé le prophète. C'est pour ceux qui sont visiblement et invisiblement avec nous. C'est nous qui sommes sa part choisie. C'est nous qui sommes sa postérité, c'est nous qui sommes son héritage. Par conséquent, nous devenons la perpétuité et nous devenons l'éternité du Christ, aujourd'hui sur terre et demain au ciel. C'est cela, le Guéronda avec ses disciples, c'est ce mystère-là qu'il accomplit. Si nous réussissons cela, alors gloire à Dieu qui nous a rassemblés des confins de la terre, comme nous rassemblons les grains de blé en vue d'en faire le pain, le Christ. Cependant, toi ou moi, c'est-à-dire chaque pécheur, enfoncé que nous sommes dans nos péchés, dans nos misères, dans notre pauvreté, pouvons-nous devenir les maillons unis de cette sainte chaîne? Pouvons-nous être des membres vivants de ce saint corps alors que nous sommes pécheurs? Ne vous semble-t-il pas que nous vivons davantage à cause du péché et de notre maladie spirituelle, le charon, dans la mythologie grecque, ce passeur de la vie vers l'au-delà? Ne vous semble-t-il pas que nous soyons plutôt la mort, que nous vivons comme du fumier, que nous vivons le malheur plutôt que la beauté et la grandeur du Christ? Ne sentons-nous pas plutôt nos difficultés et nos problèmes? Disons que oui, il en est bien ainsi. Mais qu'avons-nous dit précédemment? C'est que nous sommes ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous ressentons, ce que nous savons et ce que nous voyons, mais ce que nous sommes, c'est ce que nous ne voyons pas. C'est ce que nous vivons pas consciemment, ce que nous ne voyons pas et que nous ne comprenons pas. C'est cela qui est mystérieux et invisible, parce que c'est caché dans l'immensité, dans la perfection du Christ lui-même. Et j'ajouterai que c'est ça notre participation aujourd'hui à la résurrection. Nous sommes des hommes ressuscités parce que nous vivons cela. En définitive, quels sont les problèmes que nous vivons chaque jour, qui font que nous penchons la tête, que nous souffrons, que nous avons des problèmes, que c'est pas que on sent pas le Christ vivant en nous, que le Christ ne semble pas devenir nôtre? Quels sont nos combats? Quels sont nos problèmes? Quelles sont nos difficultés? Avant tout, ce que nous rencontrons le plus souvent, ce sont que des choses passagères, finalement. Tu te lèves le matin, tu as vécu une belle expérience, et alors tu dis, à partir de maintenant, je vais vivre pour le Christ. Tu retournes après les complices, qui est l'office du soir, dans ta cellule, la chaleur t'accable. Ça, c'est d'actualité. Tu enlèves ton rassonne, ton vêtement noir. Tu ne peux pas respirer. Tu ouvres la fenêtre afin que la fraîcheur rentre. Mais c'est la chaleur qui rentre. Qu'est-ce que tu peux faire? Dis-tu. Tu ouvres la porte pour que rentre un petit peu d'air. Ta résolution de tout à l'heure s'en est allée. Tu l'as oubliée. Tu as oublié ton existence vécue. Et il te reste l'expérience de la chaleur. Qu'est-ce que l'homme? Tu dis... Aujourd'hui, je vais veiller. Tu vas dans ta cellule et tu veilles. Les pieds te font mal. Et tu dis, je vais me reposer un petit peu. Le repos, un petit peu de temps, va te conduire à la somnolence. Et la somnolence te donne la pensée de dormir un petit peu. De sorte qu'après, tu pourras peut-être veiller toute la nuit. Et quand tu te réveilles, ce sont ni les cloches qui t'ont réveillé, ni le moine chargé du réveil qui est venu, ni celui qu'on a envoyé ensuite pour te réveiller parce que tu n'étais pas venu à l'heure, mais peut-être que c'est le Guéranda lui-même qui, avec une mine farouche, ouvre ta porte avec fracas, allume ta lumière et te dit « Pourquoi es-tu ici? Comment cela est-il arrivé que tu restes encore couché à cette heure-là? » Que sommes-nous, nous les hommes? La fatigue passagère d'aujourd'hui, ou si vous voulez, la chaleur de l'été, ou le froid glacial hivernal, le refroidissement, la maladie, la température, le mal aux dents aujourd'hui, le mal de tête peut-être demain. Nous sommes tout ce qui est passager et qui nous frappe, toutes ces choses qui s'emparent de nous et nous font oublier Dieu. Combien ces choses accessoires et passagères nous tombent dessus. Nous apprenons quelque chose qui n'aurait pas même pas dû toucher notre cœur. Et cependant, nous sentons qu'elle nous fait entrer en contact cruel avec la terre et avec les cendres, que notre cœur devient lui aussi finalement cendre. Par exemple, j'apprends que mon père lutte avec la mort. Mon père, auquel j'avais renoncé en entrant dans la vie monastique, dont je refusais le nom de famille et même le prénom qu'il m'avait donné, mon père, que j'avais d'une certaine manière rayé de ma vie, que je haïssais, selon la conception dite de l'Évangile, dite par le Christ dans l'Évangile, qui n'est pas de la haine, mais qui est une préférence de l'autre Père céleste. Mon Père, à cette heure-là, je le trouve, puisqu'il meurt, je le trouve tellement grand, plein de toutes les qualités, tellement vivant en moi, de sorte qu'il puisse à ce point mettre à mort le Christ avec lequel j'étais, et que tous les démons n'avaient pas pu mettre à mort. Cependant, les situations et les choses passagères Elles ont beau durer, elles restent contemporaines, c'est-à-dire qu'elles rôdent autour de nous, partent et se perdent. Et finalement, le combattant, si réellement il combat, reste pourtant avec le Christ. Nous rencontrons encore dans notre vie diverses craintes. Nous rencontrons des hésitations dans notre combat, de la paresse, des hésitations dans nos décisions. Nous envisageons le problème en disant que nous n'avons pas l'habitude de veiller, nous n'avons pas l'habitude de prier, on n'a pas l'habitude de rassembler ses idées, son nous, son intellect, et de nous soumettre. Chacun d'entre nous découvre en lui une certaine faiblesse, une maladie quelconque, une certaine passion, un péché. Mais quoi qu'il en soit, c'est sa propre faiblesse, c'est son propre péché, c'est sa propre passion, et tout cela devient son propre tourment, son propre aiguillon qui pique son cœur. Tout homme a une écharde, comme le dit saint Paul, un aiguillon qui le pique continuellement pour l'humilier. Il m'a été mis une écharde dans la chair pour me tourmenter, dit l'apôtre Paul, afin que je ne m'enorgueillisse pas. Chacun de nous, s'il fouille un petit peu, trouvera au minimum une écharde en lui. Ça, je l'avais hier, j'étais déjà comme ça hier et avant-hier, et il y a 3 jours, et jusqu'à maintenant, il n'a pas pu me vaincre, parce que moi, je me tiens quand même près de l'autel du Christ, près de l'église, de l'appartement de l'égoumène, de ma cellule ou de mon obédience. Par conséquent, cette écharde qui fait que je souffre, que je m'afflige ou que j'ai peur, a démontré à quel point il est impossible d'ôter le Christ de ma vie. Soit mon Christ en fait fi, soit il la chasse pour montrer sa puissance, soit il la laisse pour montrer qu'il est tout-puissant en la laissant et en vainquant toutes les autres faiblesses de ma vie. Il faudrait qu'on revienne un jour sur ce paragraphe-là. De même qu'une personne connaît ses vêtements et qu'elle les porte, de même aussi qu'il connaît sa montre, la met à son poignet et ensuite est prêt à aller à son travail. Ainsi précisément, il peut porter chaque jour sa maladie, son péché, qu'il n'a pourtant pas encore vaincu, afin de s'en remettre au Christ et de lui dire « Cloue-la cette passion-là, cloue-la Seigneur, avec la flèche de ta puissance. De même que ta flèche a percé mon cœur, qu'elle perce aussi ce péché qui n'a pas d'âme, mais qui cependant à la force de me percer, afin qu'il crève et que tu le vainques. » Nous portons notre maladie, nous portons notre faiblesse, nous portons notre passion que nous avons héritée peut-être de notre Père, que nous avons aussi nous-mêmes implantée en nous, et avec tout cela, nous allons pourtant au Christ. Dites-moi, y a-t-il quelque chose que nous ayons à donner au Christ, si ce n'est pas seulement ces choses-là que nous puissions lui offrir? Nous les avons pour les lui donner, pour lui montrer. Et c'est seulement avec ces choses-là que nous pouvons briser la difficulté et la dureté, comme nous le sentons nous, du Christ, dureté apparente, afin qu'il se donne à nous entièrement et nous le ravisse. Ce qui nous est psychique, ce qui nous est humain, nous le portons, nous les emmenons avec nous. Mais qu'est-ce encore que ces choses-là? Tu vois l'autre qui chaque jour se réjouit et dit « Je suis moine ». Chaque jour il dit « Gloire à toi qui nous montre la lumière dans ma vie ». S'il voit l'autre qui a dit quelque chose de mieux que lui, il sera jaloux. Mais cela est bien humain. S'il Gironda a loué une autre personne, lui souffrira. Il sera contrarié, il sera jaloux, il ne saura pas d'où cela vient. Cela ne vient pas d'autre chose que du fait que les Gironda a louangé un autre. Et même s'il l'avait loué lui 1000 fois et l'autre une seule fois, il aurait été jaloux. Et cependant, cette faiblesse, c'est cette faiblesse qui est la nôtre. C'est ça notre chair sur la terre que nous pouvons offrir au Christ afin qu'il insuffle et lui donne son Esprit Saint. Et encore, combien de fois qu'avec les souvenirs ou les discussions que nous faisons et qui se rapportent à notre ancienne vie ou au monde. C'est comme si nous sortons du monastère. C'est un terrible péché et une grande horreur que moi, le moine, je discute des sujets qui ne conviennent pas même aux lèvres des séculiers, que je parle de situations des hommes du monde, des péchés, des imaginations, des affronts, des envies, de la gloire des hommes, ou que je me rappelle quelque chose que j'avais fait dans le passé et que j'ai peut-être abandonné, ou que j'accepte que ma pensée s'en aille dans des milliers de royaumes, comme le démon qui est allé voir le Christ et lui a dit « Tous les royaumes du monde, je te les donne ». Nous souffrons souvent cela aussi, et aussi de nos souvenirs, de nos discussions, de nos lectures, et aussi avec ceux qui nous rendent visite et vers qui nous accourons, et aussi de plein d'autres manières. Tout cela fait partie des pires péchés que peut commettre un moine. Mais même cela, offrons-le à Dieu, donnons-le à Dieu en confessant « Seigneur, c'est la dernière fois que je fais cela. Non, Seigneur, ne le compte pas, mon Seigneur, ne garde pas ça. Mais y a-t-il seulement ces choses-là ? Il y a aussi les petites histoires du quotidien qui entraînent et détournent notre intellect. Ne sont-elles pas, elles aussi, certes passagères, mais aussi, hélas, quotidiennes ? Le fait qu'aujourd'hui, ma vitre, mon carreau s'est brisé et peut me clouer 5 jours. Je me suis adressé à celui qui est compétent, à l'économe du monastère, pour qu'il me la change. Et je me suis adressé à lui, je lui ai rappelé, mais lui ne l'a pas remplacé. Je m'énerve, je vais au responsable, lui non plus ne m'écoute pas. Alors je vais voir le Guéranda, et au lieu de lui dire d'autres choses beaucoup plus intéressantes, je lui parle du carreau de ma cellule qui est cassé, et que la personne compétente n'a même pas changé, et je m'irrite contre lui en disant « Enfin, qu'est-ce que c'est que cet homme ?» Ma chaussure était un peu abîmée, et je m'occupe d'elle, plus d'elle que du Christ, qui s'occupe, lui, de moi. Ma soutane est un peu froissée, et je sors de mon monastère. Il se peut que j'oublie de vénérer même Saint-Simon, dont la grotte est sur le chemin. Cependant, je me souviendrai, alors que j'oublie Saint-Simon, je me souviendrai qu'il faut que je repasse ma soutane. La parole abrupte, naïve, mensongère, peut-être, que me dira l'autre, la parole qui témoigne de son manque d'éducation et qui aurait dû plutôt m'attrister, cette parole peut me faire souffrir davantage que mes péchés, que l'absence et l'invisibilité de mon Dieu à mon regard. Et encore, si vous voulez, combien de désirs profonds n'écoutent pas nos injonctions, mais restent en nous, parce qu'ils sont profonds et ne veulent pas sortir. Nous avons promis que nous les laisserions à Dieu et nous dormons et nous nous réveillons avec eux. Ce sont les désirs de notre enfance, les désirs de notre jeunesse, les désirs encore de la vieillesse, des désirs de péché, des désirs de vaine gloire, des désirs sans fondement, dont nous savons qu'ils ne sont ni arrivés, ni n'arrivent et qui n'arriveront jamais. Cependant, nous nous attachons à eux, nous communions et nous coopérons avec eux. Combien sont-ils les désirs qui deviennent une natte, une couche, un lit, qui deviennent un siège, qui deviennent une belle table, qui deviennent une lecture agréable, qui deviennent une vision admirable à nos yeux? Combien nous attirent-ils? Combien de désirs viennent pour nous voler véritablement Dieu? Tout cela, mes chers enfants, ébranle en premier lieu nos relations avec notre Guéranda. Combien les saints ne vivaient-ils pas dans ces choses, dans des choses semblables, dans de telles passions humaines et démoniaques? N'en venaient-ils pas parfois à vénérer même des démons? Beaucoup d'entre eux ne sont-ils pas montés jusqu'aux cieux et ensuite sont retombés, de sorte qu'il aurait été nécessaire que Dieu soit à nouveau crucifié pour eux? Combien d'entre eux n'a-t-il pas été nécessaire qu'ils luttent et qu'ils arrivent au dernier moment pour voir les cieux ouverts et le Seigneur qui les bénit? Que signifient pour nous toutes ces choses? Rien d'autre, si ce n'est seulement le fait que le moine doit, dans ces choses-là, continuer quand même à faire son travail tout à fait normalement et mener sa vie sans péché. J'ai mal à la tête, mais ça fait rien, je continuerai mon agrippinie. Ma vie est humiliée, ça fait rien, je l'élèverai par mon agrippinie. Je souffre, mais ça ne fait rien, le Seigneur va me donner la guérison. Il suffit que moi, je continue tout à fait normalement ma vie. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Tout cela, c'est une tempête. Mais le Seigneur n'a-t-il pas rabroué la tempête? Alors qu'il leur semblait aux apôtres qu'ils dormaient, immédiatement, le vent a cessé et la mer s'est calmée, de sorte que même les apôtres en étaient surpris. Il rabroue la tempête, et il ne pourrait pas rabrouer notre passion, nos problèmes, nos péchés. Une autre fois, il rabroua l'esprit impur et rétablit l'enfant. Ne rabrouerait-il pas notre propre esprit impur si nous le désirons? Fût-ce même en faisant sortir de l'écume de notre cœur, des blasphèmes de notre bouche et du feu de nos yeux? Cependant, en dévoilant de cette manière notre profond désir, le désir de notre volonté, le désir qui anime notre vie monastique, le désir de notre vocation qui est le Christ. Et puisqu'il a guéri l'enfant, ils sont tous frappés, dit l'évangéliste, de la grandeur de Dieu. Nos passions, nos difficultés, nos tourments et nos esprits impurs existent afin de faire découvrir aux yeux des hommes, au jugement et aux témoins de l'histoire, à l'expérience de l'Église et à notre propre cœur, la grandeur de Dieu. Ils sont frappés, dit l'évangéliste Luc, de la grandeur de Dieu. Je crois que nous tous, souvent, de nombreuses fois et en divers endroits, nous sommes frappés de la grandeur de Dieu. Et même si nous n'avons jamais été ainsi frappés, vous verrez qu'un jour cela arrivera. Avant que le Seigneur chasse les mauvais démons, celui-ci vint et provoque en nous cette dernière convulsion comme pour l'enfant qu'il a frappé et qu'il a laissé comme mort. Et son père a pleuré et a dit « J'ai amené mon enfant à tes disciples, mais eux n'ont pas pu le guérir. » Et alors le Seigneur dit « Ô âge sans foi et perverti, jusqu'à quand serai-je auprès de vous à vous supporter? Prends-moi, mon père, que je ne vois pas ce manque de foi. » Et il rabroua l'esprit impur, et l'enfant fut guéri. Alors tous furent frappés de stupeur, mais il a été nécessaire que l'enfant soit d'abord frappé, qu'il fasse jaillir de l'écume et qu'il tombe à terre comme mort, pour que les disciples reconnaissent qu'ils ne pouvaient rien faire. Il a fallu qu'arrivent toutes ces choses pour qu'intervienne l'étonnante main de Dieu, sa grandeur, le glaive qui tuerait le démon et accomplirait le miracle. Cependant, combien de fois apparaît aussi en nous cette pensée mortelle et ce terrible sentiment « C'est bien pour les saints et pas pour moi, mais moi je ne peux pas faire cela. » C'est le dernier coup qu'une personne doit vaincre. Que je sente, moi, qui suis le membre du Christ, moi qui deviens tout entier lumière en la lumière, moi qui deviens tabernacle de Dieu, moi qui deviens Dieu, moi qui ai été baptisé en la personne du Fils de Dieu, moi qui communie à lui, moi qui chaque jour ne vivrai pas si son souffle ne me vivifiait pas, moi que je sente tout cela et dise que je ne peux pas. C'est pour moi que Dieu a fait toutes choses. C'est pour moi qu'il a fait le ciel et la terre. C'est pour moi qu'il a permis que vivent aussi les démons et qu'ils soient les maîtres sur cette terre, alors qu'il aurait pu les envoyer au Tartare. C'est pour moi qu'il a fait les maladies. C'est pour moi qu'il a fait les morts. Pour moi qu'il a fait toutes choses. Premièrement, il a fait le jardin, et ensuite il a fait le serpent. Avec cela, il a fait le démon, auquel il a permis d'entrer dans le jardin, et ensuite il a fait l'homme. Et tout cela est devenu l'occasion de faire don à l'homme de l'annonce de son salut, et ensuite le salut lui-même. C'est le moment décisif que je sens en moi. C'est le moment décisif que je sens que moi, par toutes ces choses, je vais m'approcher de Dieu. C'est pour moi qui suis sans expérience du Christ qu'il me fait don de ces choses-là, afin de me donner l'espérance et la joie. Il ne me les donne pas pour me décourager, parce que je désespère, pour que je dise que je meurs, mais il me les donne pour que je me souvienne qu'il faut que je crie davantage, « Seigneur, je crois en toi, c'est toi que je cherche, même si moi, je suis incrédule. » Nos passions, nos misères, nos malheurs, nos douleurs, nos échecs, nos péchés, nos morts nous rappellent qu'en dessous, de nous, Dieu a des anges. Et dès qu'il le faut, il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Il leur donnera l'ordre, non pas simplement pour nous sauver, mais aussi pour nous aider à être divinisés. Et après les tentations du Seigneur au désert, les anges s'approchèrent et le servaient. Mes enfants, le Christ avait-il besoin des anges? Non, mais il a fait ça pour nous. C'est pour nous qu'il a jeûné, c'est pour nous qu'il a eu faim, c'est pour nous qu'il était circoncis, c'est pour nous qu'il a tout accepté. C'est aussi qu'il révèle que ce roi est aidé par ses serviteurs, les anges, afin de nous révéler que c'est pour nous que les anges existent et qu'ils nous attendent. Et dès qu'il le faut, quand nous leur demandons, quand nous les appellerons avec des cris, alors ils viendront. Dans tout cela, le principal, c'est le Guéranda. C'est sur lui que tombent toutes nos afflictions, toutes nos maladies, toutes nos tentations et toutes nos joies, toutes nos expériences vécues, toutes nos beautés et toutes nos laideurs, nos éloges et nos bonnes ou mauvaises réputations, le meilleur et le pire. De même que les vagues se brisent sur le rivage, tout se brise sur le Guéranda, parce que c'est à lui que nous le déposons. Il se peut que ce soit, par exemple, une terrible guerre de pensées intérieures. Mais tu dis ta pensée au Guéranda et alors tu te calmes. Tu as un combat intérieur, tu le lui écris et ça s'arrête. Quel mystère! Tu as une joie et tu vas aller en premier lieu. À qui tu vas aller en premier lieu pour le dire? Tu le diras à ton Guéranda pour le lui confier. De même que la maman amène son enfant dans les bras du prêtre pour qu'il le bénisse et lui montre le chemin du ciel, ainsi confiez-vous tout entier au Guéranda. Ce qu'ont les moines, ces choses, elles sont rassemblées dans le cœur, dans les pensées, dans les mains, dans l'âme, dans la cellule de Guéranda. Tout cela, mes enfants, se produit parce que Dieu nous a appelés ici pour l'adorer. Le Guéranda est ce qui est le plus beau dans un monastère, parce que quand il existe, il y a autour de lui une famille. Il y a-t-il un Guéranda quelque part, alors il y a un monastère, il y a un foyer, il y a une chaleur agréable. S'il n'y a pas de Guéranda, le monastère n'existe pas. Si le père meurt, Dieu suscite immédiatement un autre père. Et nous nous dédions à lui comme au précédent. Mais quoi qu'il en soit, le Père reste un Père unique. Le Père spirituel existe-t-il? Dieu existe dans le calme et dans la tempête, en bas dans la plaine et au-dessus dans la montagne, le jour et la nuit. Y a-t-il un Guéranda dans un monastère? Les cœurs battent-ils pour lui? Ils l'aiment, ils souffrent pour lui, ils se réjouissent avec lui. Cela signifie que le Christ vit et règne en ce lieu. Cela signifie que Dieu a béni ce monastère parce qu'il, s'il cesse de le bénir, la première chose qui cessera d'exister, c'est le Père. Par conséquent, notre relation réelle, mes enfants, ce qui peut vraiment vous unir à moi, ce qui peut être le chant de nombreuses années de vos cœurs et de vos lèvres pour moi, ce qui peut être vraiment l'expression de votre amour, c'est que vous viviez ainsi, et que vous aimiez ainsi votre Guéranda, que vous viviez proche de lui, que vous aimiez votre Guéranda pour le Christ, avec le Christ, en vivant uniquement et fortement dans votre cellule, ou en restant dans celle-ci jour et nuit, selon le modèle que l'Église nous a enseigné, c'est-à-dire avec le bâton en main, avec les saints reins, avec les reins saints, pardon, et avec les sandales aux pieds, ce qui signifie que nous attendons le moment où l'ange sonnera la grande trompette, que nous attendons instamment le Christ. Quand nous le faisons, rien d'autre que d'attendre ainsi le Christ, alors nous montrons que nous aimons et que nous souhaitons véritablement de nombreuses années au Guéranda. Quand nous allons avec cette pensée remplir notre diaconima, notre obédience, et à l'Église pour l'office, quand nous montrons de la charité pour notre frère, non parce qu'il est quelque chose, bien sûr, chacun est un ange, un saint et un combattant de Dieu, mais parce que, d'une façon ou d'une autre, il est une icône, qu'il nous faut adorer Dieu, puisque l'adoration va au prototype, au modèle de l'icône. Ainsi, alors, je peux vous sentir unis à moi. Ce qui nous unit, mes chers enfants, c'est votre lien mystique avec le Christ. Pour nous, pour tous ceux qui, pour qui le Christ est le seul désirable, il leur procure la force d'être véritablement vivants et ils deviennent l'objet de la douce réjouissance et des délices du Guéranda. Votre Guéranda, je le sais, est très pauvre. Il est comme fontaine de la grâce, mais il est étroit et rouillé. Mais la grâce brûle tout et simplifie toute chose. Cependant, sans lui, elle n'est contenue nulle part. Oh, je souhaiterais que votre désir ardent et votre peine soient réellement pour Dieu. Et alors vous verrez à quel point vous appartiendra tous les jours. Vous verrez à quel point Dieu vous appartiendra tous les jours. Moi, il aurait fallu que je sois digne de vous, que je sois, comme dit le psalmiste, flamme de feu, que je sois immatériel, mais malheureusement, je ne le suis pas. Cependant, votre désir, votre peine, votre combat et votre prière me transforment comme tel parce que vous, vous le voulez et que vous me le demandez, tout comme l'offrande et la prière du prêtre transforment le pain moisi et le vin aigre en corps et en sang du Christ. Le pain et le vin ne deviennent-ils pas vraiment le Christ? Est-il possible même que cela ne se réalise pas? C'est pour cela, mes chers enfants, en vous remerciant aujourd'hui par ces vœux que vous formulez, je peux vous dire que si je combats avec vous, et si je prie avec vous. Si cependant il n'y a pas cette nécessité que j'existe pour vous et que le Seigneur m'accorde la résurrection de la mort, et vous, combattez et priez avec moi. J'ai tellement besoin de vous, non parce que je le comprends, mais parce que je le déduis des paroles de l'apôtre Paul qui a dit qu'il avait besoin des prières et des combats de ses enfants. Et si lui en avait besoin, combien plus moi ? Je le comprends, parce que l'Esprit intercède en des gémissements ineffables, dit saint Paul, c'est-à-dire qu'il demande et donne de puissantes prières à l'homme afin qu'il n'attriste pas l'Esprit Saint. N'attriste pas l'Esprit Saint, dit encore Paul. Si l'Esprit Saint peut s'attrister, s'il est possible que Dieu puisse souffrir, et s'il faut que l'homme prie et combatte, à plus forte raison, vous, priez pour votre Père. Nos prières seront le lien qui nous unira. Votre grande reconnaissance ainsi que mon action de grâce en réponse. Que dire, mes enfants, sinon ce qu'a dit l'apôtre Paul, vous que j'enfante à nouveau. Et j'enfante pour qui? Mais pour vous. Il ne dit pas « Pour vous, je supporte les peines de l'enfantement », mais il dit « Je vous enfante, je souffre pour vous, je vous enfante dans mon sein spirituel ». mes enfants, je vous ai tellement au plus profond de mon être, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous, dit encore l'apôtre Paul aux Galates, et j'aurais voulu venir avec d'autres manières. Je suis venu pourtant, selon d'innombrables manières près de vous, tantôt furieux, tantôt sévère, tantôt doux, tantôt silencieux, tantôt parlant, tantôt souriant, tantôt amer, tantôt lumineux, tantôt sombre. Cependant, chaque fois, c'était comme si je vous engendrais. À l'occasion de ces remerciements pour ma fête, permettez-moi de vous rappeler que l'apôtre Paul a engendré des hommes afin de former le Christ en eux, c'est-à-dire pour qu'ils enfantent eux aussi le Christ. Et moi, je vous prie, mes enfants, enfantez le Christ.